Top, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. Un instant M raccourci aujourd'hui.
Vous êtes en direct, allez-y.
Dans quelques minutes, vous retrouverez le médiateur des antennes de Radio France. Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Sonia De Villers.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Allez, il est là avec vos remarques, vos questions, vos commentaires à vous tous, fidèles auditeurs. Nous, on joue, comme chaque vendredi, dans l'Instant M. Et puis, on rend hommage à un immense photojournaliste disparu cette semaine, grande signature de l'agence Magnum. Il s'appelait Abbas.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
L'instant Madeleine, comme chaque vendredi, là je crois qu'on vous a choisi la Madeleine suprême. Alors si vous reconnaissez l'indicatif de cette célèbre émission des années 60, vous m'envoyez un mail illico presto à l'instant M, tout attaché, l'instant M à radiofrance.com et moi je vous offre l'intégrale des Shadok, ce qui est absolument délicieux et ce qui devrait vous permettre de vous ruer sur votre boîte mail. Comment s'appelait donc cette émission phare des années 60 ? Oh que c'est facile! L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous.
L'Instant M sur France Inter.
Abbas, très grand nom du photojournalisme donc, est mort mercredi à Paris. Il avait 74 ans. Au téléphone avec nous ce matin, Jérôme Cessini, photographe également à l'agence Magnum, qui est sans doute l'une des plus grandes marques de la photographie au monde. Et Abbas en était un pilier. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de la personnalité d'Abbas, parce que manifestement c'était un homme discret, un homme assez secret.
Alors c'était un homme discret, très pudique je pense, mais il avait une grande force. Et sa force on pouvait elle irradiait en fait quand on était près de lui. Et il pouvait parfois sembler un peu dur, mais en fait, c'était quelqu'un de très généreux. Mmh. Et pour moi, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais croisé avant même mon arrivée à Magnum. Et c'est quelqu'un à qui j'ai fait immédiatement confiance, à qui je demandais souvent des conseils. Et il fait partie, pour moi, c'était un exemple, et il fait partie de ces rares photographes qui sont capables de réunir à la fois la rigueur journalistique, l'intégrité morale et l'excellence visuelle. Et surtout, il savait ne pas être conformiste. Il savait prendre des risques.
Jérôme Cessini, à propos de risques, justement, Abbas a couvert au cours de sa carrière, pendant 6 décennies, il a couvert les guerres et les révolutions au Biafra, au Bangladesh, en Irlande du Nord, au Vietnam, au Moyen-Orient, au Chili, à Cuba, en Afrique du Sud aussi, durant l'apartheid. Je voudrais qu'on entende sa voix. Justement.
Au moment où j'assiste à la scène, à une scène d'horreur, je mets une espèce de voile émotionnelle entre le sujet et moi-même. Et je crois que pour moi, c'est la seule façon de fonctionner. Parce que je suis là-bas, quand je couvre une famine, je couvre une guerre, une catastrophe, je vais comme photographe, et c'est comme photographe que je réagis. C'est-à-dire, si je suis ému en voyant un enfant mourir devant moi, et que je me mette à trembler, ma photo sera floue, elle ne sera pas bonne. Je suis là comme photographe, je vais amener l'image la plus puissante possible de cette scène que je suis en train de vivre. Et je l'avoue, je n'ai pas honte à dire que je me baisse, je cadre ma photo, je me déplace s'il le faut. Je fais mon travail de photographe.
Voilà, et puis il dira à base dans une autre interview que cette émotion, cette peur, cette souffrance, il l'emmagasine en lui-même et puis qu'elle ressort plus tard comme une bombe à retardement dans ses cauchemars et dans sa conscience. Jérôme Cessini, vous qui êtes photographe également, montrer, ne pas montrer, qu'est-ce qu'il faut montrer dans une photo ? Vous parliez de photographie puissante chez oui. Abbas.
Oui, photographie puissante et surtout photographie juste. Mmh. La plus grande difficulté face à la souffrance à laquelle on est confronté pendant les guerres, c'est de trouver la bonne distance, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire la distance qui permet de faire comprendre, de véhiculer une émotion, un message pour le spectateur, celui qui la regardera, mais aussi une distance qui n'en montre pas trop non plus. C'est ça toute la difficulté du photojournalisme. Et je pense qu'Abbas était un maître en la matière.
C'est ça, c'est-à-dire respecter l'intimité aussi et la ligne à ne pas franchir, l'intimité et la dignité quand on photographie la souffrance, la haine et la violence.
Bien sûr, c'est essentiel de savoir ne pas franchir la limite qui pourrait bafouer la dignité des personnes qu'on photographie, bien sûr.
Alors Abbas était iranien d'origine, il s'était exilé, il a vécu très 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 longtemps en France, et depuis la révolution iranienne, il a amorcé tout un travail qui a été un fil rouge tout au long de sa vie et de sa carrière sur la religion. Il a photographié la religion, il a photographié le rapport à Dieu, et j'aimerais que vous essayiez de nous décrire ces photos, parce que quand on photographie le rapport à Dieu, on photographie des rituels, on photographie des pratiques sociales, mais on photographie aussi quelque chose d'intérieur et d'intime.
Oui, c'est là aussi qu'il a... Abbas partait toujours, la dernière fois on a parlé récemment, il me disait, il y a toujours une guerre entre les photographes conceptuels et les photographes plus directs comme nous.
Plus documentaires, vous diriez
voilà. Documentaires. Ouais. Et pour lui, ce qui était important, c'était, il disait, il se considérait comme un photographe documentaire, mais aussi intellectuel, dans le sens où tous ses travaux, ses projets partaient d'une réflexion profonde sur une grande thématique. Et là, en l'occurrence, c'était Dieu et la croyance. Comment les hommes se confrontent à Dieu et à leur propre croyance. Et c'est extrêmement difficile de montrer ce sentiment, la croyance.
La foi.
C'est la foi, c'est ça, oui.
Est-ce que vous pourriez nous décrire une photo d'Abbas qui vous a particulièrement marqué?
Ouais, j'aurais du mal. Il y en a beaucoup. Moi, j'étais vraiment... bien sûr, il y a tout son travail sur la foi qui est immense. Mais j'étais particulièrement sensible à un travail très... ses premiers travaux sur le Mexique.
Oui.
On avait comme point commun, on était tous les deux fascinés par le Mexique. Moi, j'y ai travaillé longtemps aussi. Et il me disait qu'au Mexique, c'était la première fois qu'il était arrivé dans un village où il s'était senti en paix, en fait. Et j'ai choisi une photo qui est très peu connue d'Abbas sur une place à Mexico dans les années 80. Donc, c'est une image en noir et blanc. Et on voit des personnages de dos, un peu à contre-jour, et dans le coin gauche, d'autres personnes assises derrière une sorte de bâche en plastique. On devine à peine les silhouettes. Et j'aime cette image parce qu'elle est mystérieuse et elle n'est pas très connue, justement. On connaît surtout le travail de guerre d'Abbas, ou le travail sur les religions, mais ce travail sur le Mexique est moins connu.
Merci beaucoup, Jérôme Cecini de l'agence Magnum. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour rendre hommage à Abbas qui vient donc de disparaître. C'est la fin de l'émission. Alors, toute la bande de l'Instant M va vous retrouver dès lundi. Cette semaine, c'était Anne-Cécile Perrin qui était notre réalisatrice. Redouane Tella et Marion Philippe ont préparé les émissions. Je félicite au nom de nous tous Christine. Christine qui a donc reconnu le générique de Dim Dam Dom, évidemment. Ah, bah oui, Dim Dam Dom, la gloire de l'ORTF. Voilà, je vous retrouve lundi. Bruno Donas, c'est à vous.
France Inter, la séquence du médiateur, Bruno Donas.
Merci Sonia et bonjour à tous pour la séquence mensuelle du médiateur ouverte aux questions des auditeurs. Et elles sont nombreuses sur deux sujets totalement différents. Pour le premier, beaucoup de réactions, peut-être un effet lobby, on verra, à propos de l'émission Questions politiques qui recevait François Ruffin. Par ailleurs, beaucoup d'interrogations d'auditeurs à propos de France Inter et du média global. C'est quoi et ça sert à quoi? Alors on va commencer tout de suite avec un extrait, l'extrait du portrait de François Ruffin, député France Insoumise, diffusé dans l'émission Questions politiques.
Vous dénoncez les délocalisations en particulier et vous apparaissez, aux yeux de ces ouvriers, comme leur meilleur soutien. Seulement, à part exciter les colères et amplifier les déceptions, quelles sont vraiment vos solutions? Parce que vos batailles, vous les menez sur la forme, mais rarement sur le fond. Vous faites du bruit, vous faites des coups, vous faites de la mise en scène, sauf qu'après 20 ans de combat, où sont vos résultats? Vous allez me trouver dur, mais de vous à moi, je n'en vois pas.
Karine Mécart, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste politique et auteur tous les dimanches du portrait de l'invité de France Inter et de France Info Télé. Ce portrait de François Ruffin a suscité un nombre important de réactions. Pour être honnête, cela m'a rappelé les mauvaises heures de la campagne électorale de l'année dernière. Nous étions alors inondés de messages militants, visiblement télécommandés par certains partis. On retrouve d'ailleurs assez souvent les mêmes invectives. Vous vous êtes livré à une attaque odieuse contre François Ruffin. Je suis scandalisé par les propos hargneux et agressif de votre journaliste. Alors Karine, vous n'aimez pas François Ruffin?
Je crois que la question, elle se pose pas comme ça.
C'est sûr.
C'était intéressant parce qu'on entendait donc le photographe Abbas dire « Quand je prends ma photo, j'ai un voile émotionnel. » Je crois que quand on est journaliste et quand on est journaliste tout court, voilà, on a un voile émotionnel. Je suis journaliste politique. Mon métier consiste à observer quotidiennement, d'heure en heure même, la vie politique. Et donc ce qui me fascine, mais ce qui me fascine vraiment totalement, c'est de les voir en fait, ces politiques, c'est de les voir, ces élus, de voir comment ils fonctionnent, de voir avec qui ils travaillent, de voir leurs idées quand elles évoluent ou pas, de comprendre comment elles bougent en fonction du contexte qu'elle a à ce moment-là, de percevoir leurs ambitions politiques, petites ou grandes. Et je vous assure que, voilà, vu le parcours politique que j'ai eu pour l'instant, ça fait 8 ans que je suis au service politique, j'ai couvert Marine Le Pen, j'ai couvert Nicolas Sarkozy, j'ai couvert Juppé, Fillon, j'ai couvert beaucoup la droite, et je vous assure que je me suis absolument jamais posé la question, quand je couvrais ces gens-là, si je les aimais ou pas.
Oui, c'est ça, en fait, vous êtes journaliste, voilà. Alors justement, tous les dimanches, vous rédigez donc le portrait de l'invité, qui, disons-le clairement, est un travail très exigeant de journaliste, qui conduit notamment à faire réagir l'invité, c'est un peu le but justement. Alors comment vous y prenez?
Alors en fait, je mène vraiment une petite enquête. Je commence par prendre en note des choses qui m'ont marqué chez la personne. Typiquement, chez Ruffin, la première scène que je raconte dans mon portrait, quand il enlève sa chemise de son pantalon.
Ah oui, à l'Assemblée nationale.
Alors voilà, la première séance. Alors il y avait aussi le carnet de chèques qu'il avait brandi. Enfin, j'ai tout de suite perçu un côté très théâtral en fait chez Ruffin que je voulais souligner dans le portrait. Chez Fillon, par exemple, je me souviens très bien que dans le portrait que j'avais fait de lui, je m'étais amusée avec, vous savez, les politiques souvent à la fin d'un meeting lèvent les bras au ciel. Et je trouvais toujours que chez Fillon, ça sonnait pas juste. Enfin, ça le gênait en fait de faire ça. C'était pas du tout son tempérament de
c'est
le faire.
Naturel.
Et je me souviens très bien que je l'avais, pareil, mis un petit peu en scène. Ensuite, il y a effectivement un travail aussi de documentation, forcément. Je passe beaucoup de temps à la documentation de Radio France, qui est, d'ailleurs, je les salue toutes. Il y a beaucoup de femmes dans ce service et elles font un travail magnifique. Elles me trouvent des tas d'interviews que je trouverais pas toutes seules, des tas de portraits aussi.
C'est un gros travail en fait de recherche,
d'enquête,
de documentation.
Ouais, complètement. Et puis ensuite, je passe aussi beaucoup de coups de fil à des amis politiques de la personne qu'on reçoit, à des ennemis politiques de la personne qu'on reçoit. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile pour moi, cette année, de travailler sur la Macronie, de travailler sur les députés macronistes ou sur les ministres, parce que ce sont des gens qui viennent pas de la sphère politique et donc ils ont très peu...
Ils n'ont pas de passé politique,
en fait. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de mettre de la chair, en fait, dans le portrait, parce que ce que j'essaie de faire, c'est ça, c'est de les rendre très humains avec leurs qualités, leurs défauts.
Alors il y a d'autres messages comme celui de Sylvie qui s'en prennent aux journalistes de studio loin des réalités de terrain qui jugent sans savoir. Journaliste de studio, Karine Bécart ?
Non. Pas du tout, même, j'ai envie de dire, ce que j'aime profondément, c'est mon côté reporter. C'est, voilà, je suis sur le terrain, j'aime voir, je le disais tout à l'heure, j'ai un plaisir immense à observer chaque jour des détails. Et surtout, ça change vraiment la perception des choses. Là encore, par exemple, Juppé, pendant sa campagne, lors de la primaire, souvenez-vous, donc Fillon, on connaît tous les déboires qu'il a eus, on s'est dit oui. Juppé plan B. Et ben moi, d'avoir suivi la campagne de la primaire de Juppé, je me suis dit, Juppé sera jamais le plan B. C'est pas possible. Alors après, on peut ergoter, imaginer. Mais je vous assure que quand vous avez suivi pendant quasiment 2 ans un personnage qui s'est vu gagner la présidentielle, et quand vous voyez l'immense, c'est tristesse, le mot n'est pas assez fort, quand il a perdu, c'était pas possible que psychologiquement ce grand commis de l'État puisse accepter de revenir comme ça, mener une campagne. Donc non, et j'aime les meetings politiques, j'adore ça même. J'aime aller à l'Assemblée nationale, j'aime Matignon. Alors voilà, c'est des lieux politiques, mais c'est du terrain.
Et on apprend plein de choses.
Voilà.
Enfin, je veux préciser, Karine, que vous avez reçu des tweets particulièrement, et ça je tiens vraiment à le préciser, scandaleux,
oui.
Ignobles, sexistes, à la suite de ce portrait, comme quoi donc l'intolérance et la violence de certains militants ne font pas grandir la politique. Merci Karine Bécart,
merci
journaliste politique de France Inter, pour toutes ces précisions. Un sujet plus consensuel, l'avenir de la radio. Enfin, un avenir déjà bien présent, peut-on dire, à Radio France et France Inter. Erwan Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur du numérique de France Inter. Des auditeurs semblent un peu perdus, à l'image de Jacqueline qui nous demande « Qu'est-ce que ce média global dont on ne cesse d'entendre parler, qu'est-ce que cela change pour France Inter ?» Et la radio, Erwan.
Ça change beaucoup de choses. Le média global, je dirais que c'est notre capacité à concevoir des émissions, des reportages, qui peuvent être accessibles partout et pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Par exemple, vous savez que de plus en plus de jeunes s'informent via Facebook en priorité. Mmh. Donc nous, notre objectif, c'est que nous voulons qu'ils trouvent avec France Inter sur Facebook un lieu d'information de qualité, d'information sûre, d'information vérifiée, et puis d'information qui parle de sujets auxquels ils ne s'attendent pas. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec Augustin Trapenard dans Boomerang, qui propose des cartes blanches en demandant à des artistes, des écrivains, des chanteurs, des dessinateurs, de réaliser une carte blanche, lire un texte inédit, faire une chanson inédite en vidéo. Le média global, c'est faire du France Inter en suivant les nouveaux usages de nos auditeurs.
Alors, il y a un exemple concret de France Inter Média Global, c'est la nouveauté du mois prochain. Un podcast natif, comme on dit, autour de l'élection il y a un an d'Emmanuel Macron. Alors là, expliquez un petit peu tout ça aux auditeurs.
Alors, vous savez que les podcasts, c'est quelque chose qui se développe beaucoup hein, depuis quelques années. Rien que pour France Inter, c'est plus de 34 millions de téléchargements par mois. C'était toujours de la réécoute. On vient prendre une émission qu'on n'a pas pu écouter quand elle passait en direct et puis on l'écoute un petit peu plus tard en podcast. Maintenant, on va essayer d'explorer des nouvelles façons, des nouveaux podcasts originaux qui ne sont pas de la réécoute de quelque chose qui est passé sur France Inter. On va essayer comme ça d'explorer des nouveaux sujets, des nouvelles façons d'écrire. Alors en effet, le mois prochain, on fait un premier essai avec Thomas Legrand, qui va revenir sur les coulisses de l'élection d'Emmanuel Macron un an après, mais dans un style nouveau, qui dans un podcast qui ne sera pas à l'antenne, qui sera uniquement à écouter sur le numérique, avec une nouvelle écriture, une nouvelle façon de nous raconter ce qui s'est passé dans cette élection, et puis avec des nouveautés comme le fait que dès le premier jour, vous aurez les 9 épisodes, toute la série de ces podcasts, toute la série d'émissions à écouter d'entrée de jeu, un petit peu comme vous pouvez le trouver sur Netflix quand on vous donne toute une saison d'une série d'un seul coup.
Donc pas obligé d'attendre. D'autres innovations prévues ?
Oui, on va avoir des vidéos originales qui prolongent les émissions. On va avoir aussi des débats bientôt à la rentrée. On va organiser, quand on voit les sujets qui passionnent les internautes et les auditeurs, eh bien on va continuer le débat sur le numérique avec les invités des émissions, avec les producteurs, avec des journalistes, avec des intervenants, de façon à continuer à garder ce lien absolument fort et unique entre les auditeurs de France Inter et les émissions, même quand l'émission doit s'arrêter à la radio.
Plusieurs auditeurs comme Philippe nous demandent pourquoi donc faire du média global alors que vous faites très bien la radio. Les derniers chiffres d'audience montrent d'ailleurs votre succès. Alors en effet, Erwan, pourquoi est-ce utile de s'ouvrir donc à d'autres horizons ?
Pour préparer l'avenir, le rapport à la radio des auditeurs change beaucoup. Il y a un petit peu moins tous les ans de gens qui écoutent la radio derrière un transistor ou un autoradio, j'allais dire de façon assez classique comme on le fait depuis des décennies. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a eu les ordinateurs, il y a eu les smartphones, maintenant on a même les assistants vocaux, vous savez, ces petites enceintes intelligentes entre guillemets qui débarquent dans les maisons et peut-être bientôt dans les voitures. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la façon dont les gens vont s'en servir pour adapter France Inter à ça, pour rester avec eux, pour se dire que si dans un an ou deux ans, on se met à avoir partout des enceintes intelligentes dans les maisons, eh bien, c'est plutôt France Inter que les gens auront envie d'écouter dessus. Et donc, on doit adapter nos contenus, nos émissions, notre façon de faire l'information pour que vraiment, on garde nos auditeurs avec ces nouveaux usages.
Alors, d'ailleurs, les auditeurs changent vraiment leurs habitudes d'écoute puisque France Inter est devenue la première radio la plus écoutée en numérique. Ça signifie quoi ?
Oui. Ça signifie qu'aujourd'hui, on est à 30 millions d'écoutes par mois qui se font sur le numérique. Le numérique, c'est aussi bien sur son ordinateur, sur son smartphone, sur Internet et par différents sites. On a vraiment, vraiment très envie de rester la radio la plus écoutée pour aller faire découvrir la richesse assez unique des émissions de France Inter et de ses informations.
Donc le média radio reste un super média finalement pour l'avenir. Merci à Erwan Gaucher, directeur du numérique de France Inter et merci aux moyens techniques de France Bleu Armorique qui nous ont permis de vous avoir avec nous. Prochain rendez-vous du Médiateur dans un mois. D'ici là, continuez à réagir sur notre site mediateur.radiofrance.fr. Après le journal, vous retrouvez Grand Bien Vous Fasse et Ali Rebéi. Aujourd'hui, qu'est-ce que le mal ? Mal, M-A-L.